Que ton vêtement soit blanc.
C'est impressionnant, dit Belbo. Et dans ce cas, quel serait le refuge? Les six groupes s'installent dans six lieux, mais un seul est appelé le refuge. Curieux. Cela signifie que dans les autres lieux, le Portugal ou l'Angleterre, les Templiers peuvent vivre en toute tranquillité, fût-ce sous un autre nom, tandis que dans celui-ci, ils se cachent. Je dirais que le refuge est le lieu où se sont réfugiés les Templiers de Paris après avoir abandonné le Temple. Et comme en plus, il me semble élémentaire que le parcours aille d'Angleterre vers la France, pourquoi ne pas penser que les Templiers aient constitué un refuge à Paris même, dans un endroit secret et protégé? C'était le bon politique, et ils imaginaient qu'en 200 ans les choses changeraient et qu'ils pourraient agir à la lumière du jour, ou presque. Va pour Paris. Et du quatrième lieu, qu'est-ce qu'on en fait? Le colonel pensait à Chartres. Mais si nous avons mis Paris à la troisième place, nous ne pouvons pas mettre Chartres à la quatrième, car il est évident que le plan doit concerner tous les centres de l'Europe. Et puis, nous sommes en train d'abandonner les pistes mystiques pour établir une piste politique. Le déplacement paraît advenir selon une sinusoïde, raison pourquoi nous devrions remonter au nord de l'Allemagne. Or, au-delà du fleuve ou de l'eau, en somme au-delà du Rhin, en terre allemande, il y a une ville de Notre-Dame, pas une église. Près de Danzig, il y avait une ville de la Vierge, c'est-à-dire Marienburg. Et pourquoi un rendez-vous à Marienburg?
Parce que c'était la capitale des chevaliers teutoniques. Entre Templiers et Teutoniques, les rapports ne sont pas empoisonnés comme entre Templiers et Hospitaliers, qui sont là tels des vautours à attendre la suppression du Temple pour s'emparer de ses biens. Les Teutoniques ont été créés en Palestine par les empereurs allemands pour faire contrepoids aux Templiers. Mais bien vite, ils ont été appelés au nord pour arrêter l'invasion des barbares prussiens. Et ils l'ont tellement bien fait qu'en l'espace de deux siècles, ils sont devenus un État qui s'étend sur tous les territoires baltes. Ils se déploient entre Pologne, Lituanie et Livonie. Ils fondent Königsberg, sont défaits une seule fois par Alexandre Nevski en Estonie, et à peu près au moment où les Templiers sont arrêtés à Paris, ils fixent la capitale de leur royaume à Marienburg. S'il y avait un plan de la chevalerie spirituelle pour la conquête du monde, Templiers et Teutoniques s'étaient partagés les ondes d'influence.
« Vous savez quoi ?» dit Belbo. « Je marche. Au cinquième groupe maintenant. Où sont ces poplicans ?»«
Je l'ignore, dis-je. »«
Oh, vous me décevez, Cassobon. Peut-être faudra-t-il le demander à Aboulafia. »
« Pas question, monsieur, répondis-je, piqué au vif. Aboulafia doit nous suggérer les connexions inédites, mais les poplicans sont une donnée, pas une connexion. Et les données sont l'affaire de Sam Spade. Donnez-moi quelques jours de temps. »
« Je vous donne 2 semaines, dit Belbo. Si dans 2 semaines, vous ne me livrez pas les poplicans, vous me livrez une bouteille de Ballantine 12 ans d'âge. »
Trop cher pour ma bourse. Au bout d'une semaine, je livrai les poplicans à mes voraces compagnons.
Tout est clair. Suivez-moi parce que nous devons remonter vers le 4e siècle, en territoire byzantin. Tandis que dans l'ère méditerranéenne se sont déjà répandus différents mouvements d'aspiration manichéenne. Commençons par les Archontiques, fondés en Arménie par Pierre de Kafarbaroucha, qui, vous l'admettrez avec moi, a un fort beau nom.
Anti-judaïque, le diable s'identifie à Sabaoth, le dieu des Juifs, qui vit dans le 7e ciel. Pour atteindre la grand-mère de la lumière dans le 8e ciel, il faut refuser et Sabaoth et le baptême. D'accord ?
Refusons-les, dit Belbo.
Mais les Archontiques sont encore de braves garçons. Au 5e siècle apparaissent les Messaliens qui, entre autres, survivront en Thrace jusqu'au 11e siècle. Les Messaliens ne sont pas des dualistes, mais des monarchiques. Cependant, ils sont à la tambouille avec les puissances infernales, tant et si bien que dans certains textes, on les taxe de borborites, qui vient de Borboros, bou, à cause des choses innommables qu'ils faisaient.
Qu'est-ce qu'ils faisaient?
Les choses habituelles, hommes et femmes levaient au ciel, recueillis dans la paume de leurs mains leurs propres ignominies, c'est-à-dire leur sperme ou leur menstrue, et puis ils mangeaient ça en disant que c'était le corps du Christ, et si par hasard ils mettaient leur femme enceinte, au bon moment, ils lui enfonçaient la main dans le ventre, en arrachaient l'embryon, le balançaient dans un mortier, le broyaient avec du miel et du poivre, et mange que je te mange.
C'est dégoûtant, dit Diotalevi.
Du miel avec du poivre?
Eux, ce sont donc les Messaliens, que certains appellent stratiotiques et phibionites, et d'autres barbélites, composés de Naasen et de Fémionites. Mais pour d'autres pères de l'Église, les barbélites étaient des gnostiques attardés, et donc des dualistes. ils adoraient la grande mère Barbello, et leurs initiés appelaient borboriens les Iliques, c'est-à-dire les fils de la matière, distincts des psychiques, qui étaient déjà mieux, et des pneumatiques qui étaient vraiment les élus. Le Rotary Club de toute l'affaire. Mais peut-être, les stratiotiques n'étaient-ils rien que les Iliques des mitraïstes ?
Tout ça n'est-il pas un peu confus ? Demanda Belbo.
Forcément, tous ces gens n'ont pas laissé de documents, les seules et uniques choses que nous sachions sur eux nous viennent des ragots de leurs ennemis. Mais peu importe, c'est pour dire quel brouillamini était l'ère moyen-orientale en ce temps-là. Et c'est pour dire d'où sortent les policiens. Eux, ce sont les disciples d'un certain Paul, auxquels s'unissent des iconoclastes expulsés d'Albanie. À partir du 8e siècle, ces policiens augmentent à vive allure. De secte, ils deviennent communautés, de communautés bande, pouvoir politique, et les empereurs de Byzance commencent à se faire des cheveux et à les envoyer contre les armées impériales. Ils se répandent jusqu'aux confins du monde arabe, se déversent vers l'Euphrate, envahissent le territoire byzantin jusqu'à la mer Noire. Ils installent des colonies un peu partout. Nous les trouvons encore au XVIIe siècle, quand les jésuites entreprennent de les convertir. Et il en existe encore quelques communautés dans les Balkans ou dans ces eaux-là. Or, à quoi est-ce qu'ils croient donc, ces policiers ? En Dieu, hein, étreint, sauf que le démiurge s'est entêté à créer le monde avec les résultats que nous voyons tous. Ils rejettent l'Ancien Testament, refusent les sacrements, méprisent la croix, et ils n'honorent pas la Vierge parce que le Christ s'est directement incarné au ciel et il est passé à travers Marie comme à travers un tuyau. Les bogomiles, qui s'inspireront d'eux en partie, diront que le Christ est entré chez Marie par une oreille et est sorti par l'autre, sans qu'elle-même s'en soit aperçue. Certains les accusent aussi d'adorer le soleil et le diable et de mêler le sang des enfants au pain et au vin eucharistique, comme tout le monde. C'était des temps où, pour un hérétique, aller à la messe devait être une souffrance. Autant se faire musulman. Mais c'était des gens comme ça. Et je vous en parle parce que, quand les hérétiques dualistes se seront répandus en Italie et en Provence, pour dire qu'ils sont comme les policiens, on les appellera poplicans, publicains, populicans. Lesquels ? Galicé etiam dicuntur ab aliquis poplicant.
Les voici.
En effet, les policiens continuent au IXe siècle à rendre fous les empereurs de Byzance, jusqu'au moment où l'empereur Basile jure que s'il met la main sur leur chef Chrysocère, qui avait envahi l'église de Saint-Jean-de-Dieu à Éphèse et abreuvé ses chevaux dans les bénitiers,
toujours ce vice, dit Belbo,
il lui planterait trois flèches dans la tête. Il envoie contre lui l'armée impériale, qui le capture, lui coupe la tête, l'expédie à l'empereur, et celui-ci la met sur une table, sur un trumeau, sur une colonnette de porphyre, et zac, 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 il lui plante trois flèches, et j'imagine une dans chaque œil et la troisième dans la bouche. « Des gens distingués ?» dit Diotalevi.
« Il ne le faisait pas par méchanceté, » dit Belbo. « C'était des questions de foi, substance des choses espérées, poursuivez Cassobon, car notre Diotalevi ne comprend pas les finesses théologiques. »
Pour en finir, les croisés rencontrent les policiers. Ils les rencontrent près d'Antioche, au cours de la première croisade où ceux-ci combattent aux côtés des Arabes. Et ils les rencontrent à l'assaut de Constantinople où la communauté policienne de Philippopolis essaie de remettre la ville aux mains du tsar bulgare Ioannis pour irriter les Français. Et c'est Villardouin qui le dit. Voilà le lien avec les Templiers, et voilà résolu notre énigme. La légende voit les Templiers comme inspirés par les Cathares. Ils ont rencontré les communautés policiennes au cours des croisades et ils ont établi avec elles de mystérieux rapports, de même qu'ils en avaient établi avec les mystiques et les hérétiques musulmans. Et d'autre part, il suffit de suivre la piste de l'ordonnation. Elle ne peut que passer par les Balkans.
Pourquoi ?
Parce qu'il me semble clair que le sixième rendez-vous est à Jérusalem. Le message dit d'aller à la pierre. Et où y a-t-il une pierre qu'aujourd'hui les musulmans vénèrent ? Et si nous voulons la voir, nous devons enlever nos chaussures. Mais précisément au centre de la mosquée d'Omar à Jérusalem, où jadis il y avait le temple des Templiers. Je ne sais pas qui devait attendre à Jérusalem, peut-être un noyau de Templiers survivants et déguisés, ou bien des kabbalistes liés aux Portugais, mais il est certain que pour arriver à Jérusalem, en venant de l'Allemagne, la route la plus logique est celle des Balkans. Et là attendait le cinquième noyau, celui des policiers. Vous voyez comme alors le plan devient limpide et élémentaire.
Je vous dirais que vous me convainquez, dit Belbo. Mais en quel point des Balkans attendaient les poplicans ?
À mon avis, les successeurs naturels des Pauliciens étaient les Bogomiles bulgares. Mais les Templiers de Provins ne pouvaient encore savoir que, peu d'années après, la Bulgarie serait envahie par les Turcs et resterait sous leur domination pendant 5 siècles.
Par conséquent, on peut penser que le plan s'arrête lors du passage entre les Allemands et les Bulgares?
Quand cela devrait-il arriver?
En 1824, dit Diotalevi.
Pardon, mais pourquoi?
Diotalevi traça rapidement un diagramme. Portugal, 1344. Angleterre, 1464. France, 1584. Allemagne, 1704. Bulgarie, 1824. Jérusalem, 1944.
En 1344, les premiers grands maîtres de chaque groupe s'installent dans les 6 lieux prescrits. Au cours de 120 ans, se succèdent dans chaque groupe 6 grands maîtres, et en 1464, le 6e maître de Thomas rencontre le 6e maître du groupe anglais. En 1584, le 12e maître anglais rencontre le 12e maître français. La chaîne continue à ce rythme, et si le rendez-vous rate avec les Pauliciens, il rate en 1824.
Admettons qu'il rate, dis-je. Mais je ne comprends pas pourquoi des hommes si avisés, ayant eu entre les mains les 4/6 du message final, n'ont pas été capables de le reconstituer. Ou bien pourquoi, si le rendez-vous avec les Bulgares a sauté, ils ne se sont pas mis en contact avec le noyau suivant.
Casse au bon, dit Belbeau. Mais vous croyez vraiment que les législateurs de Provins étaient des andouilles? S'ils voulaient que la révélation reste occultée pendant 600 ans, ils ont dû prendre leurs précautions. Chaque maître d'un noyau sait où trouver le maître du noyau suivant, mais pas où trouver les autres. Et aucun des autres ne sait où trouver les maîtres des noyaux précédents. Il suffit que les Allemands aient perdu les Bulgares, et ils ne sauront jamais où trouver les Hiérosolymitains, tandis que les Hiérosolymitains ne sauront où trouver aucun des autres.
Et quant à reconstruire un message à partir de fragments incomplets, tout dépend de la façon dont les fragments ont été divisés.
Certes, pas une suite logique.
Il suffit qu'il manque un seul morceau, et le message est incompréhensible. Et qui a le morceau manquant ne sait qu'en faire.
Songez donc, dit Diotalevi, si la rencontre n'a pas eu lieu, l'Europe est aujourd'hui le théâtre d'un ballet secret entre des groupes qui se cherchent et ne se trouvent pas, et chacun sait qu'il suffirait d'un rien pour devenir le souverain du monde. Comment s'appelle cet empailleur dont vous nous avez parlé, Cassobon? Peut-être le complot existe-t-il vraiment? Et l'histoire n'est-elle rien d'autre que le résultat de cette bataille pour reconstituer un message perdu? Nous ne les voyons pas, et eux, invisibles, agissent autour de nous.
À Belbeau et à moi, il nous vint évidemment la même idée, et nous commençâmes à parler ensemble. Mais il s'en fallait d'un rien pour opérer la bonne connexion. Nous avions aussi appris qu'au moins 2 expressions du message de Provins, la référence à 36 invisibles séparés en 6 groupes et le terme de 120 ans, apparaissait aussi au cours du débat sur les Rose-Croix.
Après tout, c'était des Allemands, dis-je. Je lirai les manifestes Rose-Croix.
Mais vous avez dit vous-même qu'ils étaient faux, dit Belbeau.
Et alors? Nous aussi nous sommes en train de bâtir un faux.
C'est vrai, dit-il. J'allais oublier.